Radio Okapi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre journal. Voici les informations importantes de ce matin. Territoire de Walikale au Nord Kivu. Alors que 80% de la population est en fuite, la violence armée perturbe gravement l'accès aux soins de santé pour près de 1000 malades pris en charge à l'hôpital général au chef-lieu du territoire. Médecins sans frontières alertent sur une pénurie imminente des médicaments essentiels et appellent les belligérants à faciliter l'acheminement de l'approvisionnement médical dans la région. La province du Kwilu a enfin un gouverneur. Philippe Akamituna a été élu lors des élections des sénateurs et du gouverneur de province. Il promet de travailler avec dévouement et passion pour l'intérêt de la province. L'École nationale d'administration, un tremplin pour les jeunes cadres universitaires dans la fonction publique. Plus de 740 jeunes intégrés ces dernières années, selon le directeur Tombola Mouké. Dans ce journal, il revient sur la mission régalienne de son établissement dans un entretien avec Radio Okapi. Il est notre invité. C'est tout pour le titre. Comme indiqué dans le titre, au Nord Kivu, l'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme concernant l'hôpital général de Walikale. Si les combats continuent dans la région, une pénurie des médicaments essentiels indispensables pour soigner les malades et les blessés est imminente, avertit MSF depuis le début des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les soldats des FARDC. Près de 1000 personnes déplacées ont trouvé refuge dans cet établissement médical. Chris Mukande.
Ceci apparaît ce mercredi 2 avril 2025 sur le portail de l'ONG Médecins Sans Frontières. Natalia Torrent, responsable des programmes de Médecins Sans Frontières au Nord Kivu, explique. Ces derniers jours, la situation a continué à se détériorer. La violence a gravement affecté l'accès aux soins de santé, car 80% de la population a fui la ville en entendant les tirs d'artillerie et en craignant les hostilités, ce qui accroît la pression sur des ressources médicales déjà limitées. Natalia Torrent ajoute, d'ici à 2 semaines, nos équipes sur le terrain commenceront à faire face à une pénurie à médicaments essentiels, ce qui compliquera encore leur capacité à fournir une assistance médicale urgente. En effet, la dernière livraison aérienne que l'ONG Médecins Sans Frontières a reçue au Nord Kivu date du 17 janvier 2025. L'aéroport n'étant toujours pas opérationnel, l'acheminement de l'aide humanitaire constitue un important défi. Ce qui pousse Médecins Sans Frontières à réitérer son appel à toutes les parties belligérantes à respecter et à protéger les civils, les structures médicales et le personnel de santé, également à faciliter l'acheminement de l'approvisionnement médical dans la région.
Restons au Nord Kivu pour signaler l'arrivée hier mercredi à Beni du chef d'état-major général adjoint des forces armées de la RDC en charge des opérations et renseignements. Le général Jacques Tchaligonza a affirmé qu'il est là pour une mission d'inspection et de commandement. Il a invité la population de cette région au calme, précisant que des opérations militaires sont en cours afin de stabiliser la région. Le général Jacques Tchaligonza s'est exprimé au micro de Marc Marofi.
Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens.
Au Congo central, le territoire de Kimvula retrouve peu à peu la calmie après les exactions commises par des éléments armés. Mobondo, l'administrateur de ces territoires, affirme que cette accalmie est due au renfort des militaires dans la commune des Maloku, frontière avec les territoires de Kwango et Kimvula. Vital Lusaku appelle les autorités compétentes à redoubler d'efforts pour chasser définitivement ces miliciens dont la menace demeure présente. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Selon l'administrateur des territoires de Kimvula, Vital Lusaku, les incursions des éléments de la milice Mobondo ne se font plus depuis mi-janvier de cette année. À ce jour, un climat de paix règne et la population vague librement à ses occupations. La preuve, selon lui, c'est le retour volontaire des déplacés de Popokabaka et de plusieurs habitants des villages situés dans le secteur de Lulalumene, frontalier avec la commune de Maluku, qui avaient fui les atrocités de Mobondo au groupement de Fumakibambi dans les territoires voisins de Madimba. L'administrateur de Kimvula parle d'une accalmie grâce au renforcement des militaires FARDC à la limite entre la commune de Maluku, les territoires de Popokabaka et celui de Kimvula. Pour mieux sécuriser la population, l'autorité locale Vital Lusaku indique qu'en plus des militaires déployés à Kimvula et à Maluku, le gouvernement doit quadriller à l'aide d'un dispositif sécuritaire important tous les points d'accès de Kimvula, y compris ceux frontaliers avec l'Angola. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Le département d'État américain a annoncé que Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique et conseiller principal du président Trump pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, ainsi que Karina Sanders, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, se rendront en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir de ce jeudi. Sur son compte X, il a précisé qu'au cours de ce voyage, le conseiller principal Boulos et son équipe rencontreront le chef d'État et le chef d'entreprise afin de poursuivre les efforts pour une paix durable dans l'Est de la RDC et de promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. En réaction, l'ASBL Congo Action pour une diplomatie agissante, CADA, a demandé aux autorités congolaises d'adopter un message fort et sans ambiguïté face aux diplomates américains. Écoutons les propositions de Eric Kamba, coordonnateur des CADA, joint par Blaise Ndongala.
CADA alerte les autorités congolaises de prendre en compte les faux pas réalisés face au congressman Ronnie Jackson et les appelle à avoir un message fort précis, non truffé d'ambiguïté, sur la situation de guerre qui connaît le pays depuis 30 ans et qui met en péril l'intégrité de son territoire avec son cortège de plus de 10 millions de morts et de déplacés, d'une crise humanitaire sur fond de pillage systématique de ressources naturelles. Mettre sur pied une solide équipe de travail constituée de gens rompus dans les différents dossiers venant en outre des affaires étrangères, de mines, du commerce extérieur, du portefeuille et des finances auxquelles il est utile d'adjoindre des techniciens provenant, par exemple, du secteur minier. Associer les chefs d'entreprise congolaises, principalement de celles qui opèrent dans le secteur minier.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Philippe Akamituna, député provincial, a été élu gouverneur de la province du Kwilu lors des élections des sénateurs et du gouverneur de province organisées hier mercredi par la CENI à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Suite à sa victoire, l'ancien directeur des cabinets de l'ex-gouverneur Willy Ishundala a promis de travailler dans l'intérêt de la population du Kwilu. Irène Bomaluzolo pour les explications.
Enfin, le nom du nouveau gouverneur de la province du Kwilu est connu. Il s'appelle Philippe Akamituna Ndolo, qui vient d'être élu à ce poste mercredi 2 avril 2025 par les députés provinciaux à Bandunduville. D'après les résultats provisoires à l'issue du dépouillement, Dr. Philippe a battu ses 15 adversaires avec 28 voix sur les 47 votants. Il est suivi par Maître Donald Sindani qui a obtenu 11 voix. Le candidat Steve Mabiko vient à la troisième position avec 5 voix et Rombo Fumani, quant à lui, a obtenu 3 voix. S'exprimant devant la presse bandundoise après sa victoire, le nouveau gouverneur du Kwilu, très satisfait, déclare ce qui suit.
Je promets de travailler pour l'intérêt et rien que l'intérêt de la population. Après 65 ans, c'est la première fois qu'un originaire de Bagata prend la tête de province. C'est vraiment une fierté.
Précisons que le gouverneur Philippe Akamituna sera secondé par le professeur Espoir Massaman qui du territoire de Bulungu, l'actuel directeur des cabinets du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Par ailleurs, la province du Kwilu connaît désormais ses nouveaux représentants au Sénat. Le député provincial élu d'Idiofa, Papi Labila, a remporté la première place avec 9 points. Il est suivi dit par le député provincial Willy Itchundala di Diofa, ancien gouverneur du Kwilu, et les sénateurs honoraires Jean-Philbert Mabaya, qui ont chacun obtenu 6 voix, ainsi que Mariam Bakele, élue avec 5 voix. Consultation politique pour un gouvernement d'union nationale à Kinshasa. Le professeur Luzo Lubambi propose 2 solutions pour sortir de la crise, notamment celle liée à la guerre à l'est du pays, reçue hier mercredi par le conseiller spécial du chef de l'État, Eberhard Kalongele. Luzolo recommande que le gouvernement mette en avant la politique de justice transitionnelle. Cela implique des réformes institutionnelles, notamment dans les domaines de l'armée, de la police, de la justice et de renseignement, afin de mettre un terme définitif aux conflits récurrents. En tant que personnalité politique indépendante et intellectuelle engagée, le professeur préconise également une lutte efficace contre la corruption. Il s'exprime ici au micro de Billy Yvan Lutumba.
Par rapport à la situation actuelle que nous traversons, essentiellement cette crise de l'ex, la voie de sortie, c'est 2 préconisations. La première, c'est la justice transitionnelle. La deuxième, c'est la lutte contre la corruption pour éviter que la vie des Congolais soit utilisée comme des marchepieds pour prendre le pouvoir et exercer le pouvoir et partager le pouvoir. La politique nationale de justice transitionnelle préconise la vérité. Il faut que le peuple congolais sache pourquoi il y a eu 10 millions de morts. Donc il faut une commission nationale et des commissions provinciales, là où les crimes se sont passés. Deuxièmement, le pilier justice et poursuites judiciaires. Il est important que ceux qui sont les auteurs de ces crimes de masse répondent, soit sur le plan national et soit sur le plan international. Il faut que le gouvernement reprenne en charge les millions de victimes congolaises. Donc le FONAREV, il faut le renforcer. Il faut par exemple préconiser le vetting. Le vetting qui est une technique par laquelle les nominations, les désignations des hauts responsables de l'État doivent être checkées préalablement par le passé criminel ou tumultueux des personnes considérées.
En lien avec ces consultations, plusieurs figures de l'opposition ont rencontré le conseiller spécial Eberhard Kalongele. Hier mercredi, Moni Delaïdi a invité d'autres opposants à œuvrer pour la nation en participant aux consultations. Un autre groupe composé d'une 20aine de jeunes se présentant comme la jeunesse du FCC a également pris part aux discussions. Selon eux, leur motivation à participer à ces consultations est la passion pour le Congo, avec pour priorité la récupération des terres conquises par le Rwanda. Le syndicat national de médecins SINAMED demande au gouvernement de respecter les accords signés avec les syndicats de la santé en faveur du personnel soignant. Cet appel a été lancé hier mercredi lors d'une conférence de presse à Kinshasa par le secrétaire général national adjoint chargé de l'administration des études et de documentation. Il a souligné qu'en raison de l'agression qui subit notre pays, le président de la République avait ordonné la révision à la baisse du train de vie des institutions. Cela permettra au gouvernement de mieux rémunérer le fonctionnaire comme cela a été fait avec les militaires et les policiers au début du 2e trimestre de 2025. 4e volet de notre série sur les embouteillages à Kinshasa. Dans ces numéros, notre reporter nous plonge dans les calvaires quotidiens des habitants de Mitendi qui parcourent plus de 30 kilomètres en affrontant de nombreux épisodes de bouchons. Selon les habitants de Mitendi, au lieu de 2 heures pour arriver en ville, ils passent généralement plus de 6 heures dans les embouteillages à l'aller et plus de 8 au retour. Reportage de Michel Kifindangoy.
La première épisode des bouchons se situe entre le camp PEM et la Cité Verte. Les véhicules traînent pendant plus de 2 heures dans ces embouteillages. Les bouchons au niveau du camp Badiading fait aussi perdre plus d'une 30aine de minutes. Celui de Lupen est devenu presque chronique, faisant gaspiller aussi près d'une heure. Les marchands et marchandes occupent anarchiquement la chaussée, réduisant ainsi la circulation à une seule bande. Les immondices extraits des canalisations d'eau sont aussi abandonnés sur la chaussée, alors que les stationnements des motards et taxibus amplifient les bouchons à ces endroits. Par ailleurs, les automobilistes doivent aussi faire face aux bouchons de Delvaux, avenue Ngouma et magasins. Ceux qui ont des véhicules personnels évitent ces bouchons en passant par la rocade pour ressortir à Mboudi. Mais là, ils doivent aussi affronter les bouchons monstres de pompage et entre Brikine et Magasin. À partir d'ici, les véhicules venant des avenues Ngouma, Matadi et Tourisme se croisent, occasionnant parfois des bouchons graves jusqu'à Sossimat. D'où la nécessité de construire une route sur l'avenue du Rail pour désengorger l'avenue Mondjiba, proposent certains chauffeurs.
Actualité internationale.
Le service de sécurité burkinabé a publié mardi dernier une liste de 32 noms et portraits des personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste comprenant des djihadistes mais aussi des journalistes et des hommes politiques. En tête de liste figure Jafar Diko, chef du groupe djihadiste Ansarul Islam lié à Al-Qaïda. Âgé de 50 ans, il est devenu la principale figure du djihadisme au Burkina Faso après la mort en 2017 de son frère et fondateur du groupe Malam Diko. Aux côtés du chef terroriste, on trouve également le lanceur d'alerte Naïm Touré et l'ancien maire de la ville de Dori, Ahmed Aziz Diallo. Toutes ces personnes sont considérées comme des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, affirme le chef du pouvoir militaire à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré. J'invite les gens à la vigilance car aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Nous les attendons de pied ferme et nous serons impitoyables, a-t-il déclaré. Parmi ceux que le chef d'État suspecte de complot ou d'activité terroriste figure le journaliste en exil et ancien président de la commission électorale Ahmed Barry. L'objectif est de nous diffamer au point de nous faire taire, estime-t-il.
L'invité.
Au cours de 8 dernières années, au moins 740 jeunes cadres universitaires ont été intégrés dans l'administration publique. Le directeur général de l'École nationale d'administration, ENA, a partagé ces statistiques lors d'un entretien avec Radio Capi. Tombola Mouké a expliqué que son établissement a pour mission de recruter et de former ces jeunes Congolais pendant 12 mois afin qu'ils puissent assurer le suivi et l'évaluation des politiques publiques et ainsi transformer l'appareil administratif. Tombola Mouké répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'École nationale d'administration?
L'École nationale d'administration ENA RDC est un établissement public créé le 16 avril 2013 à travers du décret 1303 pour contribuer à doter l'État d'un vivier de fonctionnaires de hauts fonctionnaires compétents et intègres pour permettre de sortir l'État des sentiers battus. L'école a une longue histoire. Elle a commencé par l'École nationale de droit ENDA il y a plus de 60 ans, qui a été supprimée par la suite. Puis il y a une autre initiative en 2001 et puis finalement l'ENA actuelle sous la forme d'établissement public. Tout cela témoigne de la volonté du gouvernement congolais depuis les années d'après l'indépendance de se doter d'un personnel administratif de qualité.
Quel est selon vous, monsieur le directeur, l'apport de l'ENA dans la bonne marche du pays?
Alors, l'école a pour mission principale de recruter et de former de jeunes cadres universitaires et de les mettre à disposition des services publics plus généralement. Ces jeunes universitaires sont formés, ils sont recrutés de manière compétitive, ensuite sont formés pendant 12 mois dans le cadre d'un tronc commun pour être outillés et capables de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Ça fait 8 promotions déjà à ce jour qui sont formées pour 743 ENARC, mis à la disposition de l'État employeur, au cadre de hauts fonctionnaires qui contribuent à aider dans la conception des politiques publiques, qui contribuent à aider à transformer l'appareil administratif, comme j'aime le dire, en un modèle de progrès, un modèle d'excellence.
Vous dites qu'ils sont recrutés de manière compétitive. Quelles sont les conditions d'éligibilité?
3 conditions essentiellement. D'abord, une condition d'âge, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État, parce que les élèves recrutés ici ont les statuts de fonctionnaires stagiaires, et l'âge limite pour être recruté agent de carrière des services publics de l'État, c'est 35 ans. La deuxième condition, c'est la nationalité. Il faut être de nationalité congolaise. Et la troisième condition, c'est la formation universitaire, c'est au minimum un bac plus 5, c'est qu'on appelait dans l'ancien système licence. Maintenant, avec le LMD, c'est master.
Quelles sont les matières dispensées tout au long du cursus?
La formation initiale organisée au profit des élèves s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, c'est les modules de cours, c'est votre question, je vais y revenir. Le deuxième axe, c'est les séminaires et les conférences. Le troisième axe, c'est les stages. Les élèves en font deux, un stage d'immersion de 2 semaines et un stage de professionnalisation de 3 mois. Et enfin, ils sont soumis à l'élaboration au terme de leur cursus d'un travail des politiques publiques qu'on appelle formation action FORAC. Alors pour revenir au module de cours, c'était votre question. Il y en a 38 dans le cadre du programme actuel qui est en pleine réforme, hein, mais il y a un module d'intégration puisqu'ils viennent de différentes filières. Toutes les filières peuvent postuler à l'ENA. Il y a un module d'intégration pour permettre de les mettre à niveau tous avec un certain nombre de cours, un module management et un module territoire et un module grands enjeux contemporains. Chaque module, c'est en moyenne 10 cours. Et ça fait environ 38 cours au total qui sont dispensés. Ça concerne tous les domaines de la gestion de l'État, les marchés publics, les ressources humaines, la gestion de projets, l'élaboration de politiques publiques, le suivi et évaluation de politiques publiques, la décentralisation, toutes les matières qui concernent la gestion administrative et plus généralement la gestion de l'État.
Quelles sont les garanties pour les jeunes qui fréquentent l'École nationale d'administration?
Tout au long de leur formation, ils sont boursiers parce qu'ils sont recrutés par l'État. L'ambition pour l'État congolais était de rendre le secteur public attractif parce que pour attirer les meilleurs. D'où l'organisation de ce programme de formation initiale avec une bourse qui est accordée mensuellement aux élèves pendant leur formation. Au terme de la formation, ils sont admis sous statut, donc ils deviennent fonctionnaires de l'État. Ils intègrent ce qu'on appelle le corps des administrateurs civils, puisqu'ils intègrent l'administration publique au grade d'attaché d'administration de première classe.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration, ENA, répondait aux questions de Blaise Ndongala. C'est ainsi que se termine notre journal. Polydor Basunga assure la mise en onde, coordination et supervision par Pele Kipela Mundo, présentation par Gisèle Cage. Nous vous invitons à rester à l'écoute de Radio Capi pour plus d'informations et des programmes passionnants. N'oubliez pas de nous suivre sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de votre fidélité.